VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 mars 2017. John Linden en direct de Washington. Au sommaire ce soir, pour évaluer les méfaits de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, une mission du Conseil de sécurité de l'ONU commence au Cameroun. La chancelière allemande Angela Merkel va en Égypte et en Tunisie pour parler du chaos libyen et de l'afflux de migrants vers l'Europe. En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak, définitivement acquitté par la Cour de cassation. Le ministre américain de la Justice est dans la tourmente. Les démocrates reprochent à Jeff Sessions d'avoir menti au Congrès. Et puis, retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Morgane Guerrier pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies séjournent aujourd'hui et demain au Cameroun. Première étape d'une tournée africaine afin d'évaluer la menace que représente le groupe extrémiste Boko Haram dans les pays les plus touchés par leurs activités terroristes dans le bassin du lac Tchad. Jacques Aristide.
Les membres du Conseil de sécurité sont arrivés à Yaoundé, la capitale camerounaise. Leurs premières rencontres sont prévues pour demain. Ils entendent ensuite se rendre au Tchad et au Niger, puis finalement au Nigeria pour visiter un camp de réfugiés qui ont fui les exactions de Boko Haram. Ces quatre pays font également face à une grave crise humanitaire. Dans un communiqué, le ministre camerounais chargé des relations extérieures fait remarquer que ce périple est le premier du genre jamais initié par le Conseil de sécurité dans cette partie de l'Afrique. L'ambassadeur de la France à l'ONU, François Delattre, a indiqué que les 15 pays membres souhaitent venir en soutien aux États concernés dans leur lutte contre le terrorisme. Rien qu'au Nigeria, les violences menées par Boko Haram depuis 2009 ont tué plus de 20 000 personnes et fait 2,6 millions de déplacés. Face aux problèmes critiques de la malnutrition, parfois sévère, du côté des enfants, la délégation compte inviter les gouvernements à faciliter l'accès à l'aide humanitaire et à adopter une approche globale pour régler les problèmes à la source du terrorisme.
Le président gambien Adama Barrow a réservé sa première visite officielle au Sénégal où il est arrivé ce jeudi. Il avait prêté serment à Dakar alors que son prédécesseur Yahya Jammeh refusait de céder le pouvoir. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme accusant les forces de sécurité d'avoir tué plus de 40 personnes en RDC lors des manifestations des 19 et 20 décembre 2016 liées à la fin du mandat de Joseph Kabila ne reflète pas la réalité de ce qui s'est réellement passé et jette un discrédit sur l'ONU. Pour le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende Omalanga, il y a eu 31 morts au lieu de 40, comme le dit le rapport. On l'écoute au micro de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sur les 31 pertes en vies humaines enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, 15 font encore l'objet à ce jour d'enquêtes de la justice militaire congolaise pour en déterminer la responsabilité et les auteurs. On est cependant loin, bien loin, de ces 40 personnes tuées par la police et la garde républicaine alléguées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme oppose invariablement au gouvernement et aux instances judiciaires congolaises le principe de confidentialité pour se dérober aux questionnements essentiels sur les preuves susceptibles d'étayer les graves accusations portées contre les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et de permettre ainsi d'engager des poursuites contre leurs auteurs présumés.
Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. 5 personnes employées d'une société minière canadienne ont été enlevées dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de 3 Congolais, d'un Tanzanien et d'un Français. Ils ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans le territoire de Kabambare. Des organisations de la société civile tanzanienne ont lancé une campagne appelant les forces de l'ordre et les autorités à garantir le respect des libertés d'expression et de réunion que le gouvernement est accusé de restreindre. Ces organisations sont conduites par le Centre juridique et des droits de l'homme, principale ONG tanzanienne de défense des droits de l'homme. L'armée kényane aurait tué au moins 57 combattants du groupe islamiste Al-Shabaab ce matin à une trentaine de kilomètres de la ville d'Afmado en Somalie où se trouve leur base. Claire Morin-Gibourg.
Ce bilan a été confirmé par le porte-parole du colonel Joseph Ouwot, mais n'a pas été confirmé par une source indépendante. Les troupes kényanes de la force africaine en Somalie ont utilisé des canons d'artillerie appuyés par des hélicoptères. 5 camions équipés de mitrailleuses lourdes ont été détruites. Les habitants de la ville d'Afmado, dans le sud de la Somalie, ont confirmé à la Voix de l'Amérique que des combats acharnés entre des soldats de l'AMISOM et des combattants d'Al-Shabaab ont eu lieu ce matin. Des drones ont également été utilisés pendant l'offensive, peu après l'attaque d'un convoi de l'armée kényane. Par ailleurs, des hommes armés ont enlevé 2 enseignants kényans dans le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord du Kenya.
Les secours sud-africains fouillaient jeudi après-midi les décombres d'une section d'un grand hôpital public du centre de Johannesburg, dont le toit s'est effondré quelques heures plus tôt à la recherche d'éventuelles victimes. L'an dernier, le principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, avait mis en garde dans une tribune contre les risques d'effondrement de certaines parties de cet hôpital. En Tunisie, Khalil Gariani, ministre dont la récente nomination a provoqué la colère du puissant syndicat UGTT, a renoncé à son poste pour éviter une crise. Ce membre du bureau exécutif de la centrale patronale Utica a été désigné ministre de la fonction publique et de la gouvernance lors d'un remaniement restreint en remplacement d'Abid Brigui, un ancien de l'UGTT. La chancelière allemande Angela Merkel entame aujourd'hui une tournée de 2 jours en Égypte et en Tunisie. Madame Merkel évoquera la situation en Libye et l'afflux des migrants par la Méditerranée. Le point avec Dili Dico.
Lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sissi, Angela Merkel parlera de coopération économique, d'opportunités pour les compagnies allemandes en Égypte et de création d'emplois pour les jeunes Égyptiens. Mais selon Stéphane Sebert, porte-parole de la chancelière, le thème de la migration sera au cœur des discussions, notamment la sûreté des côtes et des frontières pour combattre les passeurs et les trafiquants. La Libye, porte d'entrée des migrants vers l'Europe et la fermeture des routes migratoires d'Afrique subsaharienne vers la Libye seront au centre des discussions. La chancelière avait déjà transmis un tel message à l'automne 2016 au Mali et au Niger. Suite à la fermeture de la route migratoire des Balkans début 2016, la Libye est redevenue, malgré les dangers, le premier point de départ des migrants vers l'Europe.
L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été acquitté définitivement par la Cour de cassation jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Monsieur Moubarak avait été condamné à la prison à vie en 2012. Mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Une cour criminelle avait ensuite acquitté l'ex-président, décision confirmée ce jeudi en cassation. Il s'agit de la dernière procédure judiciaire visant M. Moubarak. L'ancien président a été impliqué dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir en février 2011. M. Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire depuis son arrestation en 2011.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice est sur la corde raide, Jeff Sessions, et dans le viseur des démocrates et de certains républicains pour ses contacts avec des responsables russes alors que Donald Trump briguait la présidence. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Monsieur Sessions, d'après une révélation du Washington Post, a rencontré par 2 fois l'an dernier l'ambassadeur russe Sergei Kislyak. L'ancien sénateur de l'Alabama a confirmé ce jeudi avoir rencontré l'ambassadeur Kislyak en marge de la convention du Parti républicain en juillet, puis dans son bureau au Congrès en septembre. Il dit avoir agi dans le cadre de ses fonctions de sénateur, pas en tant que conseiller de Donald Trump. Et M. Sessions de rassurer, je n'ai jamais rencontré le responsable russe pour discuter de la campagne électorale. Lors de son audition de confirmation en janvier comme ministre de la Justice, les sénateurs lui avaient demandé ce qu'il ferait s'il apparaissait évident qu'un membre de la campagne de Donald Trump avait été en contact avec la Russie. Jeff Sessions avait répondu « J'étais appelé substitut de la campagne une ou deux fois et je n'ai pas eu de communication avec les Russes. » Pour l'heure, plusieurs enquêtes sont en cours avec l'aval tant des démocrates que des républicains. Certains législateurs veulent que le ministre s'abstienne de l'enquête de son département sur les rapports entre l'équipe de Trump et la Russie. La députée Nancy Pelosi, leader de la minorité démocrate, et la sénatrice Elizabeth Warren sont allées plus loin. Elles réclament simplement la démission de Jeff Sessions.
L'armée américaine a procédé jeudi matin à une série de frappes contre Al-Qaïda au Yémen, dans les provinces d'Abyan et de Chaboua au sud et Baïda au centre, a indiqué le Pentagone. Plus de 20 frappes ont visé des combattants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, des équipements et des infrastructures dans ces provinces, a précisé le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Les frappes américaines ont tué au moins 12 membres présumés d'Al-Qaïda, selon des sources locales. Le Parlement européen a levé jeudi l'immunité parlementaire de la dirigeante d'extrême droite et eurodéputée Marine Le Pen à la demande de la justice française qui lui reproche d'avoir diffusé des images du groupe islamiste Boko Haram sur Twitter. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Agrobusiness en Côte d'Ivoire, le remboursement des souscripteurs lésés est reporté. Étant donné le volume des contrats reçus et l'importance cruciale de disposer de listes fiables, le comité de veille a proposé au gouvernement la date du 15 mars pour procéder au remboursement du capital investi par chaque souscripteur selon les ressources disponibles sur les comptes bancaires des sociétés d'agrobusiness. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement. Retour du FMI au Gabon, le Fonds monétaire international s'est engagé à convenir rapidement d'un nouveau programme de crédit au titre de la facilité élargie de crédit, mesure que le FMI déclenche lorsqu'un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à moyen terme. Le pays a réduit ses dépenses, mais a toujours du mal à faire face à ses arriérés de paiement de salaire et ses dettes envers le secteur privé. Afrique du Sud, le géant des télécoms MTN enregistre une perte de 200 millions de dollars pour l'année 2016, une première dans l'histoire de la compagnie, pénalisée par une énorme amende au Nigeria et la dépréciation du rand face au dollar, souligne Jeune Afrique.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinot est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
La Tropicale Amissa Bongo au Gabon en cyclisme.
La quatrième étape qui devait avoir lieu aujourd'hui entre Fougamou et Lambaréné a dû être annulée en raison d'un incident technique survenu sur l'un des avions qui devait transférer les coureurs de la province du Haut-Ogoué vers Lambaréné. Malgré toutes les mesures prises pour assurer les vols aériens dans les meilleurs délais afin de permettre aux coureurs d'être au départ ce midi, les organisateurs ont pris la décision d'annuler l'étape en concertation avec le président du jury et les responsables des équipes engagées sur cette épreuve. On rappelle que le Biélorusse Stanislas Bascou portera le maillot jaune de leader au départ de la cinquième étape demain matin entre Lambaréné et Kango.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Le Cameroun qui bat sévèrement le Soudan 4-1 et se relance après sa défaite au premier match. Le Sénégal affronte l'Afrique du Sud dans le deuxième match de la journée.
Mazembe recrute un joueur belge.
Après avoir mis un terme à son prêt avec Montpellier, Anthony Vandenborre s'est engagé pour le tout-puissant Mazembe. Le latéral international belge retrouve à 29 ans sa région natale du Katanga puisqu'il était né à Likasi. Outre le club belge, Vandenborre a également porté les couleurs des clubs italiens de la Fiorentina, du Genoa ou encore le club anglais de Portsmouth.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, l'une des révélations de la saison, ne rejouera pas d'ici la fin de la saison régulière et ce en raison d'une blessure au genou gauche, c'est ce qu'a annoncé son club. Notre objectif prioritaire est de protéger la santé à long terme de Joel pour qu'il soit performant sur le terrain, a insisté le président des opérations basketball des Sixers. Embiid, 22 ans, n'est plus apparu en match officiel depuis le 27 janvier et son équipe, qui avait redressé la tête en janvier, a perdu 9 de ses 14 derniers matchs. Boston, hier soir, a fait mordre la poussière aux champions en titre Cleveland, victoire 103-99 lors d'un match digne des playoffs. Et puis les Clippers de Los Angeles ont été conspués par leur public après leur déroute à domicile face à Houston, 103-122.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. On passe à présent au dossier du jour et on commence par le Tchad où les organisations de la presse privée accusent l'Agence nationale de sécurité, un service de contre-espionnage, de harceler et de menacer les journalistes. Ils s'inquiètent du sort d'Eric Kokinange, directeur de publication des Tribunes Info, Malachi Mbairaga Djombe du journal Mutation, et Daniel Ngadjadoum, un journaliste des Tribunes Info, enlevé dimanche par deux hommes armés avant d'être relâché trois jours plus tard. Timothée Denangmaï a joint N'Djamena Belngar, l'armée la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens, l'UJT.
On reprocherait à Malachi de faire paraître un article sur un agent de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, qui exerce comme journaliste à Moundou dans la région du Logone occidental. Mais précisément à Eric, qui est le directeur de Tribune Info, on ne sait pas jusqu'à présent pourquoi on le reproche.
Quel est l'impact de cette situation sur les activités des journalistes au Tchad?
Il y en a peur parce que, je vous le dis, le domicile de publication de Tribune Info a été envahi il y a quelques jours par les éléments de l'Agence nationale de sécurité, qui étaient allés jusqu'à même perquisitionner son domicile. Il y a eu quelques-uns qui faisaient le tour de la construction pour voir peut-être les mouvements ou à quelle heure il va rentrer. Donc, il y a la panique, il y a l'inquiétude et il y a la peur qui ne permet pas aujourd'hui aux journalistes de travailler normalement.
Qu'attendez-vous des autorités?
Nous avons lancé un appel au gouvernement. Le Tchad est un état de droit et les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Si l'on reproche quelque chose à un journaliste par rapport à son travail, que les instances soient saisies durement et qu'ils répondent de ces actes. Mais il n'appartient pas à l'Agence nationale de sécurité de traquer les journalistes parce que ce n'est pas son travail.
Belngar, l'armée, la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens. À présent, la réaction de Dieudonné Djonambaye, président du Haut Conseil de la communication, le HCCC.
Une des missions du Haut Conseil de la communication, c'est de garantir la liberté de presse et la liberté d'expression. Mais ces organes d'information se sont mis hors la loi par rapport au Conseil de la communication. Une des dispositions de la loi sur la presse leur fait obligation de déposer deux exemplaires de leur parution, c'est-à-dire de faire le dépôt légal. Mais notoirement, nous constatons ici à N'Djamena que la plupart des journaux refusent de faire le dépôt légal. Donc nous arrivons à la déduction que ces journaux nient l'existence du HCCC, qui est pourtant une émanation du monde de la presse tchadienne.
Les journalistes estiment qu'en dehors du Haut Conseil de la communication, c'est à la justice de s'occuper des délits de presse et non l'Agence nationale de sécurité qui est un service de contre-espionnage.
Bon, le parquet d'instance peut s'auto-saisir, mais il faut que le parquet aussi voit le journal, entre en possession du journal, qu'on fasse le dépôt légal. Mais si le parquet d'instance n'a pas le journal, ne l'a pas vu, idem pour le HCC, qui ne reçoit pas les exemplaires des journaux, comment peut-on réagir au niveau du parquet et au niveau du HCC?
Dieudonné Djonambaye, président du Haut Conseil de la communication du Tchad, joint N'Djamena.
Dans Washington Forum ce jeudi, Cameroun, le malaise anglophone. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester. Internet coupé et l'arrestation de trois leaders de la contestation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la minorité linguistique s'estime lésée. Que veulent les Camerounais anglophones? Le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
7 ans après l'appel de Cotonou contre les faux médicaments, le Bénin a décidé de mettre les bouchées doubles afin de passer de plaques tournantes de ce commerce illicite à un État conscient des dangers que constituent les faux médicaments sur la population. Plus de détails avec Ginette Fleur à Dandé, notre correspondante à Cotonou.
Sale temps pour les vendeurs de médicaments de la rue. Depuis près d'une semaine, ils font les frais de leur obstination à tout miser sur un commerce perçu comme une infraction grave. De toutes les descentes effectuées dans ces pharmacies à ciel ouvert, celle-ci restera pour longtemps dans les annales de l'histoire. Une descente inopinée qui aura permis à la mission conjointe de procéder à la saisine de 84 tonnes de faux médicaments et à l'arrestation de 109 personnes. Le bilan est encore partiel puisque les descentes se poursuivent dans les villes du Bénin. Djibril Kouito est vendeur de médicaments frelatés à Djégoulé, le plus grand marché de ce genre de médicaments combattus. Après la descente, il ne lui est resté que ses yeux pour pleurer.
Ils ont cassé tout. Et voilà, les gens se sont partis prêter l'argent. Hein? Et voilà, il faut voir ce qui se passe actuellement. Qu'allons le faire pour juste pouvoir payer ce qu'ils ont prêté là? C'est pas bien.
Ceux qui exercent la vente illégale de médicaments sont de petites mains d'une filière nationale et internationale bien structurée, clame cette Méninois qui disent ne pas comprendre l'acharnement à punir les petites gens alors que le commerce profite à des personnes bien en vue sur l'échiquier national.
Ça fait pitié. Il y a des dettes maintenant dans ce pays, des crédits que les femmes emploient juste pour faire leur commerce. Il y a des femmes qui ont emprunté de l'argent. Et regardez ce qu'on leur fait dans ce marché. Avec peine, on mange. Avec peine, on vit. Et regardez ce qui se passe maintenant dans ce grand marché.
Des 109 arrestations opérées, 49 personnes ont été placées mercredi sous mandat de dépôt. Pharmaciens et autres spécialistes de santé se félicitent de cette opération qui aura porté bien de fruits. Pour le directeur des pharmacies, siffler la fin de la pagaille était devenu une urgence capitale.
C'est la première fois que c'est fait de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire à Cotonou, à Porto-Novo, à Boïcon, à Parakou. C'est déjà une bonne chose et que ça a eu une telle réussite, ça veut dire que l'opération a été bien organisée et que la suite sera encore et plus efficace. Ça ne peut qu'être une lutte permanente, ça doit être sans répit. Nous allons être là pour maintenir la veille.
La lutte sera rude et sans complaisance, précise ici le président de l'Ordre des pharmaciens. Pour lui, il faut en finir avec ces chiffres honteux qui font du Bénin le deuxième pays au plan africain en matière de vente de médicaments frelatés.
L'opération vise tous ceux qui sont impliqués dedans. Ce n'est pas que les menus frelatés ou payer des bonnes dames. Oh, les faux médicaments tuent plus que les armes. À supposer que ce soit des armes qui soient vendues comme ça à Djégoulé, vous croyez que le gouvernement allait laisser faire? L'enquête est en cours. Si des pharmaciens sont impliqués, ils seront pris comme tout le monde.
Avec le démantèlement du réseau de vente de faux médicaments, ce sont des milliers de personnes déversées sur le marché du chômage. Et c'est en cela que certains Béninois désapprouvent l'opération, même s'ils sont conscients de ce que le code des douanes rend tout détenteur de produits de contrebande pénalement responsable. Les jours à venir verront certainement tomber les tête pensante de cette vente illicite de faux médicaments. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Bria au centre-est de la RCA, encore en proie à l'insécurité. La ville est entre calme et inquiétude. La présence des casques bleus de la MINUSCA ne rassure pas les habitants. Conséquence, chacun assure sa sécurité à sa manière, nous dit notre correspondant Freeman Sipila.
Au centre de la ville, c'est un calme apparent. Les affrontements armés entre l'UPC et le FPRC, deux factions ex-Séléka rivales aux alentours de Bria, ont renforcé la crainte de la population. Personne ne sait à quel moment tout peut chambouler. Arthur travaille dans une ONG locale.
Là où on est, chacun prend ses dispositions pour ne pas être pris par qui que ce soit. Et donc du coup, là présentement, ce sont les groupes rebelles qui sont là et qui prennent contrôle de la ville. Bon, il ne faut pas trop d'exaction, mais on se méfie quoi. Donc la sécurité n'est pas vraiment au beau fixe. La piscose, ça existe de tout moment. Parce que vous pouvez être là, vous sortez, il n'y a pas d'information, mais du coup, il y a une détonation et voilà.
Les casques bleus ne patrouillent que sur les grands axes. La police et la gendarmerie nationale n'existent que de nom, l'autorité de l'État, loin d'être une réalité. Pour se protéger, la plupart des habitants sont armés de couteaux ou de fusils. Aboubakar Charfadine, étudiant déplacé à Bria.
C'est un comportement très déplorable de la part de la jeunesse centrafricaine qui se promène avec des couteaux. On ne sait pas avec quoi est-ce qu'ils veulent faire avec ces couteaux-là. Et là, je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de responsabiliser les autorités, la gendarmerie et la police, de réprimer ces comportements-là. Parce que le fait pour une personne de se promener avec une arme blanche, un couteau, il peut commettre des crimes à tout moment. Et il est dangereux pour la population et la société.
Pour prévenir le danger, restaurer un climat sécuritaire apaisé et lutter contre l'incivisme, le conseil préfectoral de la jeunesse mène des campagnes de sensibilisation. Ibrahim Saleh Hamid est son président.
Nous avons reçu des formations plus sur le droit de l'homme, sur le civisme, etc. Automatiquement, on commence à faire une sensibilisation dans le quartier, échanger avec la jeunesse, surtout sur le civisme. On a pris le cas de notre mairie qui a été vandalisée pendant le dernier événement. Les matériaux des mairies qui ont été emportés au quartier. Nous avons demandé à nos frères jeunes, ceux qui détiennent devant eux ces matériaux, de restituer ça en place. Et puis ceux qui connaissent qui détient ces matériaux, de leur demander simplement vraiment ce matériel appartient à la population, de ramener en place afin que la mairie puisse vraiment fonctionner comme il se doit.
L'instabilité sécuritaire a paralysé l'administration publique. Tous les services de l'État, réhabilités et rééquipés par la communauté internationale, ont été pillés et saccagés durant les affrontements de novembre dernier entre l'UPC et le FPRC au centre de Bria. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le marché international du cinéma africain Mika est une des pièces maîtresses du FESPACO qui bat son plein en ce moment à Ouagadougou. Acheteurs, producteurs, vendeurs et distributeurs du monde se rencontrent à chaque édition du festival pour faire des choix, partager de l'expérience et diversifier l'offre en matière de production audiovisuelle et cinématographique. Notre correspondant Issa Napon y a fait un tour. Son reportage.
Dans des allées feutrées d'une grande salle, se dressent des stands tout aussi colorés les uns que les autres. Des stands pris d'assaut par des exposants aux offres diversifiées, mais toutes en rapport avec le cinéma ou l'audiovisuel d'une façon générale. Sur place, tout se côtoie. Ateliers de visionnage, stands de présentation d'outils de production et de distribution cinématographique, vente de programmes. Halima Ouedraogo, elle, est animatrice de l'association Cinomade.
L'association Cinomade est une structure basée à Burkina Faso. Nous créons et nous diffusons des outils de sensibilisation. Bon, ce qui nous motive au Mika ici, c'est la rencontre d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que le cinéma africain ait en avance, et en particulier le cinéma burkinabé.
À 150 mètres de son stand se trouve l'installation de H Studio Cinéma. Jules Alexandre Komara en est le porte-parole.
C'est une société ivoirienne et qui tourne autour de trois pôles, c'est-à-dire le doublage de films, la location de matériel et aussi la production. Nous restons positifs en espérant que, à la sortie de ce Mika, nous pourrons avoir beaucoup plus de contacts et avoir aussi un réseau.
Des va-et-vient aussi de réalisateurs de tous bords désireux de vendre leur production, à l'image du lauréat de Success Film Award 2017 au Burkina Faso, Yacouba Napon, directeur de Z Production.
Je suis là au Mika pour faire des rencontres et essayer de vendre mon film Adieu Belle-Mère qui a été le premier prix succès cinéma au Burkina Faso. J'ai des acheteurs qui sont intéressés et qui voulaient, ils avaient besoin impérativement d'une copie.
Tout le monde a la possibilité, aussitôt que les choix des films sont faits, de les visionner dans un espace consacré où Séné Savoie-Degou est le responsable de la vidéothèque disponible au Mika.
Cette vidéothèque est composée de box de visionnage. Voilà. Et puis il y a une liste des films qui sont à la disposition des professionnels.
Tout ou presque tous les segments représentatifs du milieu cinématographique se retrouvent dans ces allées du marché international du cinéma et de la télévision africain. Ainsi en va-t-il pour ces visiteurs du jour qui vont du professionnel au simple curieux amateur de 7e art africain, Jean Digne en est l'un d'eux.
Donc ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'Afrique est un laboratoire de nouvelles images. Le Mika, on repart avec des idées et que je fais partie des gens qui se battent pour que la diversité ne soit pas une caricature.
Le Mika se présente comme la bourse des programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique. C'est le lieu de rencontre entre les professionnels de différents pays africains, mais aussi d'Europe et du continent américain, permettant ainsi aux cinéastes de rencontrer les acheteurs, les programmateurs de festivals, les télévisions et les distributeurs. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot, assisté de Sim. Chang était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.